On a un petit moment encore, si vous avez des questions, des objections, des compléments.
Quand tu parles des Trente Glorieuses, tu parles d'abord du plein emploi. Il y a un autre truc qui est, si je vois la génération précédente, c'est-à-dire celle de mes parents, il y a aussi l'idée de l'ascenseur social. Hein, ce que les communistes, enfin les ministres communistes à la Libération, appelaient aussi la promotion ouvrière. Ce qui fait qu'effectivement, une aide comptable, elle pouvait finir sa carrière chef de service, d'un ajusteur, en passant par les cours du soir aux arts et métiers, il pouvait déterminer dessinateur industriel. Et là, je crois que c'est un truc intéressant par rapport aussi à ce que tu as dit sur les cadres. C'est-à-dire qu'il y a une espèce, l'ascenseur social fait qu'un ouvrier va pouvoir, au bout d'un moment, accéder au statut de cadre sans perdre sa culture de classe. Hein. Et bon, il faut. On enfonce le clou. Hein. Les cadres, évidemment, ça ne se définit pas par un salaire meilleur que celui d'ouvrier. J'ai même connu le cas de personnes qui, en passant de cadre, perdaient de leur salaire.
Ouais, bah oui, les cotisations sont bien plus fortes. Oui, bien sûr. Oui, mais ça, c'est très juste. Je pense que la sortie des Trente Glorieuses, d'ailleurs, c'est, à mon sens, un des facteurs d'affaiblissement considérable du syndicalisme. C'est le phénomène que tu dis, qui était cette croyance. Mais ça va au-delà de l'ascenseur social personnel. C'est, même si moi, je ne passerai pas cadre, mes enfants pourront, eux. C'est cette idée, cette projection générationnelle qui était que, quelle que soit la dureté des temps qu'on vivait, nos enfants vivraient une période meilleure. Et c'est cette idée-là qui se brise dans les années 80. Parce que là, à mon avis, le mouvement sur le CPE le reflète typiquement, c'est les parents qui descendent dans la rue parce que la question de l'avenir social de leurs gosses est posée et qu'ils ont le sentiment massivement répandu que c'est pas dit que la génération suivante vive mieux que ce qu'ils ont vécu eux. Et ça, c'est un ressort d'espérance sociale tout à fait considérable qui s'est brisé dans les années 80-90, qui, à mon avis, explique beaucoup le repli sur soi, le désengagement du syndicalisme, voire même, d'une certaine manière, l'émergence de l'extrême droite comme force d'influence au niveau des idées, dans les couches populaires, parce que ça existe aussi, il ne faut pas se raconter d'histoire.
Je voulais juste revenir au tout début, quand vous avez dit que l'amertume vis-à-vis de l'Allemagne, quand les bombardements ont épargné l'industrie allemande. Moi, j'ai toujours entendu le contraire, que c'était justement, on avait bombardé l'industrie allemande et que le plan Marshall avait énormément aidé l'Allemagne par rapport à la France, parce qu'ils ont tout reconstruit, donc ils avaient un avantage sur les Français, étant donné qu'ils avaient des nouvelles industries. Tandis que la France avait été moins bombardée, elle avait des vieilles industries qui marchaient difficilement, et que l'avantage, justement, ça a été le bombardement des industries allemandes.
Oui, mais ça a été totalement démenti en regardant dans le détail. Je ne dis pas que tout est resté intact en Allemagne, loin de là, loin s'en faut. Mais enfin, il faut voir aussi l'étendue de l'industrie en Allemagne, hein, qui était sans comparaison avec la France. Donc il y a eu des destructions, mais il y a eu énormément de pans de l'industrie allemande qui sont restés debout. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été modernisés par la suite, mais il n'y a pas eu... En tout cas, c'est établi que dans les bombardements, les zones dans lesquelles il n'y avait que de l'industrie et pas de population... Sauf si, évidemment, elles entretenaient la poursuite de l'effort de guerre. Hein. Les Alliés ont bombardé, évidemment, tout ce qui continuait à alimenter la Wehrmacht. Mais il n'y a pas eu de parti pris systématique de démolir l'industrie allemande au moment des grands bombardements de 1945. Hein. Donc avant, évidemment, il fallait affaiblir la production industrielle. Mais alors que la France a été pilonnée considérablement. Hein. Et du coup, cet argument-là... perd de sa force parce que... Alors pourquoi la France n'a pas reconstruit une industrie entièrement neuve et beaucoup plus performante dès 1945-1946? Bon, ça a été quand même en partie le cas. Hein. Mais le problème, c'est que la surface industrielle de la France n'a jamais été celle de l'Allemagne, et c'est toujours pas le cas d'ailleurs. Il n'y a qu'à voir le poids des ouvriers dans la société allemande, il a toujours été beaucoup plus fort, et on sait très bien que, si vous voulez, le mode de développement de l'Allemagne après-guerre... C'est pas du tout le même mode de développement que la France. En France, c'est pour ça d'ailleurs, quand on parle de services publics à la française, à mon avis, c'est un concept bidon, les services publics à la française, parce que les Allemands, ils tiennent beaucoup aux services publics, et d'ailleurs, ils comprennent pas comment en France on accepte que l'eau soit du service privé. Parce qu'en Allemagne, l'eau est un service public. Il ne serait pas question d'aller privatiser l'eau chez les Allemands. Donc vous voyez qu'il faut être prudent là-dessus. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'en France, je l'ai évoqué, la reconstruction économique de la France se fait autour des services publics et des grands donneurs d'ordre public. La direction des communications, la planification, l'orientation par l'État, c'est autour des grands services publics que se sont reconstruits. Bah, tout le secteur métallurgique, la fonderie, etc., c'est la SNCF, c'est les navires. Donc la puissance publique joue un rôle fondamental dans la reconstruction, alors qu'en Allemagne, c'est pas du tout à travers les services publics, c'est à travers la reconstitution du tissu industriel, selon une logique qui était assez partagée en Allemagne, y compris par les syndicats. Et là encore, c'est une production de l'entre-deux-guerres, qui était que pour les syndicats en France, la richesse sociale, elle est produite par des services publics abondants qui assurent la péréquation, la propriété sociale, l'accès de tous, etc. En Allemagne, pour les syndicats, la richesse sociale, elle est produite par une industrie très productive, qui est capable de générer des hauts salaires. Et donc, ils ont toujours exercé un poids très très fort sur leur industrie pour les hauts salaires, y compris si ça se traduit par la fermeture des canards boiteux. Ils veulent une industrie très productive, parce que c'est elle qui assure les salaires, qui assure des hauts salaires, et c'est les hauts salaires qui protègent les familles. Parce qu'on est quand même encore dans une conception assez masculine du rapport salarial. Donc on a des représentations assez différentes, mais dans laquelle l'industrie en Allemagne joue un rôle tout à fait central. Et c'est un peu, on est encore dans des schémas comme ça, entre les pays. Mais non, je vous assure, j'ai très, très longtemps tenu cette idée-là, parce qu'elle est colportée dans l'histoire ordinaire, mais il y a vraiment, j'ai eu des travaux assez convaincants sur ce sujet-là. Mais c'est vrai qu'il y a eu des révoltes, parce qu'il y a des usines qu'on a démontées en France pour les remonter en Allemagne. Ça existait aussi.
Pendant la guerre ou après ?
Après. Ah bah pendant la guerre, oui, ils ont fait ça pendant la guerre, mais là c'était différent. Oui, enfin pas des. Oh, je sais plus le détail. Il y a eu des transferts technologiques, mais c'est sûr. Les tensions se produisaient surtout sur l'acheminement des denrées, quoi, des subsistances. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses qui avaient été détruites, hein, malgré tout, dans l'approvisionnement. Et il y a eu des conflits dans les ports ou même dans les gares, hein, où la CGT, notamment, elle s'est bloquée des. Enfin, elle était soutenue par la population. C'est vrai qu'en Lorraine, par exemple, bon, le ressentiment à l'égard de l'Allemagne est quand même resté vivace très longtemps. Il y a les campagnes, y compris des campagnes du Parti communiste et de la CGT, sont assez longtemps restées dans ces coins-là, des campagnes relativement anti-allemandes. Mais bon, l'opinion publique française vis-à-vis de l'Allemagne, c'est pas un mystère de dire que ça s'est fait doucement. Le ralliement s'est fait doucement, par des actes, par des gestes politiques, le traité de l'Elysée, les accords Adenauer de Gaulle, etc. Et même quand on voit la symbolique que reproduisent Mitterrand et Kohl, etc., il y a toujours quand même derrière cette idée de la réconciliation des peuples français-allemands, qui ne s'est pas fait comme ça. J'entendais sur Arte là, un Allemand qui disait nous autres Allemands, on aime bien les Français, mais on ne les prend pas très au sérieux. Et les Français nous prennent très au sérieux et ils nous aiment pas beaucoup. Donc il y a encore pas mal de.
Il y a encore des chemins à faire.
Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que la France, par rapport à l'Allemagne, je veux dire, au niveau industriel, donc elle est. Quel serait le pays, donc, en Europe, qui pourrait se comparer à l'Allemagne
Sur le niveau industriel, aucun. L'Allemagne est quand même le grand pays industriel européen. Et avec l'élargissement au nouveau Länder, ça ne s'est pas arrangé. C'est un jugement de valeur inutile. Ça s'est renforcé. Ça s'est d'autant plus renforcé qu'aujourd'hui, l'industrie allemande travaille en symbiose avec les zones à culture industrielle de sa périphérie, c'est-à-dire la Pologne, la Tchéquie, la Hongrie. Les ateliers sont répartis, hein, sur cette Mittel-Europa industrielle. Et bon, C'est un des aspects de la puissance allemande, y compris, vous voyez bien que, alors que les produits allemands sont chers à l'exportation, ils se vendent partout, parce que l'industrie allemande est difficilement substituable dans les biens d'équipement professionnels dont ont besoin à peu près toutes les industries. Hein, les Allemands vendent dans les pays de l'Est, ils vendent en Chine des produits très chers, mais dont on a besoin parce que eux savent les faire, qu'il y a une culture industrielle extrêmement forte, qui peuvent compter aussi sur une culture industrielle qui existe en Pologne, en République tchèque et dans pas mal de pays de cette zone-là, où il y a une histoire des relations économiques depuis le 19e siècle, d'échanges économiques. Mais bon, l'industrie allemande, elle est encore exportatrice, largement. Et on dit même que, autant en France, la croissance repose en grande partie sur la consommation intérieure, en Allemagne, c'est beaucoup moins vrai depuis une dizaine d'années, où c'est l'exportation qui continue à tirer la croissance avec un affaissement de la consommation intérieure assez, assez important, avec le développement des mini-jobs, etc. L'Allemagne, terre des hauts salaires, c'est un petit peu de l'histoire ancienne. Et aujourd'hui, l'essentiel de la croissance allemande est tiré par les exportations, ce qui fait d'ailleurs que là, ils sont en train de traverser un trou d'air assez significatif, puisqu'ils sont du coup très dépendants de l'activité économique en dehors de leurs frontières. Pardon ? Non, mais on commence à voir se répandre dans différentes branches des salaires minimums de branches ou dans des zones territoriales, dans des Länder aussi. Il y a un débat vers... Mais ce qui est très significatif d'ailleurs, que voir naître en Allemagne un débat sur le SMIC, nous, enfin, il y a 15 ans, quand on avait des relations avec les chercheurs qui travaillent comme nous sur les mêmes sujets en Allemagne, le SMIC français était regardé comme un archaïsme bien franco-français, lié à la place de l'État, etc. Alors que chez eux, la question du minimum salarial, il était réglé par la négociation collective. Et aujourd'hui, c'est les syndicats qui sont venus à l'idée d'avoir un salaire minimum garanti parce qu'ils n'arrivent plus à négocier des standards salariaux suffisants.
Oui, vous disiez tout à l'heure qu'en 1919, la CGT était un syndicat révolutionnaire. Mais je crois qu'il devait y avoir les deux courants révolutionnaires et réformistes. Mais peut-être à majorité révolutionnaire, alors.
Non, ils n'étaient pas majoritairement révolutionnaires. La CGT, telle qu'elle se reconstitue dans l'après-guerre, elle est composée pour partie d'anciens syndicalistes révolutionnaires de l'avant-guerre. La plupart d'entre eux reconvertis au communisme, puisque la grande rupture, c'est quand même 1917. C'est ceux qui se reconnaissent dans la révolution d'octobre et ceux qui ne s'y reconnaissent pas. Donc le camp des révolutionnaires est divisé entre des communistes et ceux qui restent syndicalistes révolutionnaires. Mais les communistes sont dès le départ un peu plus nombreux. Et puis il y a la grande masse réformiste de la CGT, qui est pilotée par Léon Jouot, et qui à l'époque est quand même la majorité de la CGT.
Le Parti communiste n'était pas encore...
Non, le Parti communiste se crée à la fin de 1920.
Oui, c'est ça.
Donc,
Au sujet de 1936, les trois années avant la guerre de 1939, j'avais participé à un débat avec Marc Ferro, qui était très intéressant, et il mentionnait qu'en 1936 et les années... jusque la déclaration qui est prise en 39, quand c'est 37, 38, 39, les travailleurs ne prenaient pas de vacances, enfin les collègues travailleurs, la majorité d'entre eux ne prenaient pas de vacances. Et une grande partie d'entre eux travaillaient au noir, autre part, pour se faire mettre du beurre dans les épinards, disons, mais ils ne prenaient pas les vacances. Par contre, les travailleurs ont commencé à prendre des vacances après la guerre, c'est-à-dire en 1946-47 et la suite. Et ça a été comme le début aussi de la société de consommation, donc la création, le club, le voyage, etc. Mais ce n'était pas ancré dans l'esprit de la majorité des travailleurs, ces vacances dans la consommation.
Oui, c'est bien possible.
Sauf par exemple les auberges de la jeunesse. Oui. Mais en général, c'était soit des très jeunes, célibataires ou autres qui partaient dans les auberges de la jeunesse. Mm-hmm. Au sujet aussi de 1945-1946, la bataille de la production, c'est vrai que la France avait donc été pillée, il fallait produire. Et les mineurs, d'ailleurs, n'ont pas pris de vacances, etc. Et il n'y avait pas seulement que dans le charbon, les mineurs, mais je crois qu'il va y avoir aussi dans l'ensemble des industries, parce qu'il n'y avait plus rien. aussi le textile, la confection, l'industrie de la chaussure, etc. Tout était complètement ruiné. Et il y avait à l'époque, je crois que les travailleurs étaient à l'honneur. Alors, ceux qui produisaient, par exemple, ça faisait quand même 12 jours d'affilée, parce qu'ils ne prenaient pas le week-end, ils travaillaient donc pas le week-end, ça faisait 12 jours d'affilée, mais il y avait la récompense, ils faisaient un voyage à travers l'Europe, etc., etc. Alors, c'est vrai que quand on réfléchit à cette époque, qui n'est pas du tout mentionnée actuellement dans le manuel scolaire, pour les gens, et surtout les jeunes générations, ça paraît bizarre.
Ouais, ça. C'était l'époque du travailler plus, pas forcément pour gagner plus, mais
pour plus de gloire.
Pour plus de gloire, mais c'est l'effort porté quand même surtout dans les industries de base, les industries d'extraction, la sidérurgie, enfin tout ce qui est la production des biens de production, quoi. Enfin, c'était ça. Mais aussi, évidemment, dans
des positions, aussi une position nationaliste.
Patriotique, on disait.
Le patriotisme. Oui, mais à ce moment-là, aujourd'hui aussi, c'est repris ça. Le patriotisme, en réalité, c'est le nationalisme.
Oui, ça c'est un... c'est un grand débat, mais oui. Alors, on est dans l'après-guerre aussi. La France a été occupée pendant 4 ans, hein, donc...
Est-ce qu'il y a des conflits...
En Italie, énormément. Oui. En Allemagne, pas tellement. Hein, parce que, d'abord, il n'y a pas de mouvement syndical autorisé en Allemagne. L'Allemagne est partagée en zone d'occupation. Bon, la France occupe un petit bout dans la Sarre, là, mais il y a surtout ce qu'on a appelé la bizone anglo-américaine, dans laquelle le syndicalisme n'est pas autorisé avant 1949. Au moment où il va y avoir la loi fondamentale allemande, la constitution donc de l'Allemagne fédérale, quand je dis on, c'est les autorités d'occupation vont aider à la reconstitution du syndicalisme allemand, qui d'entrée de jeu n'est pas autorisé à aller très très loin. Alors progressivement, dans les années 50, oui, il va y avoir des tensions, et notamment dans les mines, dans la sidérurgie, et va y avoir plusieurs lois qui vont mettre en place ce qu'on appelle la codétermination, ce qu'on a appelé en France très longtemps la cogestion. Il y avait d'anciennes lois déjà de codétermination qui dataient de 1918, hein, des premiers actes de la République de Weimar, mais on va reprendre ce dispositif-là par des lois en 52, je crois. 51 et 52 qui vont étendre les principes de codétermination. Donc en Allemagne, on a une conflictualité qui apparaît plutôt dans les années 60. Dans les années 50, pas tellement. Par contre, en Italie, la situation sociale ressemble assez à celle de la France. D'ailleurs, c'est pas nouveau. En 1919, c'était pareil. Et il y a énormément de conflits sociaux en Italie à cette époque-là. Hein. Ailleurs, en Grande-Bretagne aussi, qui portent sur les salaires, bien sûr. Ça, c'est la question centrale à cette époque-là. Hein. C'est vraiment... Et c'est alimenté, le mécontentement est alimenté par les difficultés d'approvisionnement, par... mais c'est la question centrale hein, de cette époque-là, bien sûr. Le niveau de vie, les salaires et la préoccupation de nourrir ses enfants, et ça occupe évidemment beaucoup les esprits de tout le monde. Quoi. C'est le propre de cette période. D'ailleurs, on verra après, la question est intéressante si on la projette jusqu'à après, les grandes tendances de la conflictualité, d'ailleurs... Parce qu'on parle toujours de la France, pays de la grève, ou on peut dire à une époque, l'Italie, pays de la grève, mais quand on regarde bien les grandes séquences conflictuelles, des années 50 jusqu'aux années 90-2000, il y a une grande ressemblance. Les conflictualités sont pas les mêmes, mais il y a des moments de conflictualité ascendante. Alors les années autour de 68, c'est manifeste. La montée des tensions que j'évoquais là, en 66-67, on la retrouve en Italie, ça va déboucher sur ce qu'on a appelé l'automne chaud italien. En Angleterre, pareil, hein, les Wildcat Strikes des années 68-70, et même en Allemagne, il y a un mouvement de grève sauvage qui déborde complètement le DGB et l'IG Metall, qui est d'ailleurs la période où la Fédération de la Métallurgie allemande reprend une attitude beaucoup plus conflictuelle, et c'est bien dans les mêmes années, dans les années 70, qui sont des années de relative ébullition dans la plupart des pays d'Europe. L'Angleterre, à cette époque-là, est le pays le plus gréviste, et de loin, hein, de toute l'Europe. Et dans les années 80, il y a ce qu'on appelle, ce que Charles F. qui a travaillé là-dessus, appelle le retour du calme, hein, Return of Quiescence. Au cours des années 80, dans tous les pays européens, on voit un fléchissement de la conflictualité, et on voit aussi, alors si on poursuit jusqu'à aujourd'hui, autour des années 2000, une petite remontée. Hein, qui, alors j'ai travaillé là-dessus pour le bouquin sur la grève, là où j'ai fait un petit comparatif européen de ça. On voit des frissons conflictuels qui se rétablissent à partir des années 2000, y compris dans des pays qu'on avait un petit peu perdu l'habitude, comme l'Autriche, ou le Danemark, la Norvège, où on commence à voir assez significativement des grèves qui n'ont pas l'importance de celles des années 70, mais enfin qui montrent qu'il n'y a pas une tendance unique hein, vers le dépérissement des pratiques conflictuelles, loin de là. Et je pense que la crise actuelle finira bien par accoucher aussi de son lot de retours de conflits. Même si c'est jamais des périodes extrêmement fastes. Enfin, si on prend la crise des années 30, elle a plutôt provoqué des replis sur soi que des grands mouvements de protestation. Ou même en Allemagne, la crise des années 20, la crise monétaire, etc., avait plutôt cassé le mouvement social qu'elle ne l'entretenait. C'est toujours des périodes un peu difficiles, hein, qui ne sont pas forcément très favorables, oui, avec le risque de chômage de masse, qui n'a jamais été un booster de mobilisation collective. En 1964, elle est créée par transformation de l'ancienne CFTC. On fera une séance là-dessus, sur l'histoire du syndicalisme chrétien, mais qui montre bien la... Et c'est important d'ailleurs de retracer cette histoire, parce que ça permet de comprendre un peu mieux, me semble-t'il, la trajectoire de la CFDT, le fait qu'elle passe, elle soit passée en 20 ans, enfin, pour ceux qui ont l'âge suffisant pour se souvenir de la CFDT des années 70, celle d'aujourd'hui leur paraît singulière. Et je crois que si on rend compte de la totalité du cycle parcouru par la CFTC-CFDT, devenant CFDT, on comprend mieux certains thèmes, certaines permanences de l'idéologie, si vous voulez, un peu le cœur quoi, idéologique de cette organisation. Bon, on fera une séance là-dessus, particulière.
C'était la bataille aussi des LIP.
Oui, évidemment, c'est le symbole même de la CFDT des années 70. Et en même temps, d'une certaine manière, LIP, c'est un peu le dernier conflit de l'ère de la dynamique de 68. Hein. Souvent, on donne ce conflit-là comme un peu... Bon, il est emblématique à la fois, et en même temps, il marque le tournant des années 70. Après LIP, c'est Rateau. Hein. Rateau, c'est l'usine de la région parisienne. Il y a aussi une grève très longue, hein, avec occupation, mais c'est pas... On produit, on vend, on se paye. Hein. L'utopie autogestionnaire hein, qu'il y avait un peu dans LIP, là, c'est... Il y a un plan de restructuration et on lutte contre les suppressions d'emplois. Et là, on voit bien qu'à une ou deux années de différence, le contexte et les rapports de forces sociaux changent complètement. On n'est plus dans la phase conquérante de la dynamique de 68. On est déjà dans les prodromes de la crise et des restructurations industrielles qui vont faire que la France perd 1 million d'emplois industriels en 10 ans, hein, entre 78 et 88, et que ça va donner lieu à énormément de conflits du style Rateau, où on négocie le dos au mur pour éviter le maximum de licenciements. Mais là, c'est plus tout à fait... les mêmes luttes, c'est pas tout à fait les mêmes acquis à la sortie des conflits. Là, c'est pas la grande transformation, c'est la grande inversion du rapport de force.